Rome l'accuse de ne pas respecter les lois européennes. Et puis le pape François va sortir de l'hôpital aujourd'hui. Il y avait été admis mercredi pour des difficultés respiratoires. Le pape.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Olivier Adam, romancier, auteur de livres pour la jeunesse et co-scénariste, s'est fait connaître du grand public dès son premier roman « Je vais bien, ne t'en fais pas ». Dans son dernier opus, « Dessous les roses », paru aux éditions Flammarion en août 2022, il poursuit son exploration de la sphère familiale et nous convie à assister à un huis clos construit tel une pièce de théâtre. Au moment de l'enterrement de leur père, Claire, Paul et Antoine, devenus adultes, se retrouvent dans la maison familiale. Chacun va revendiquer sa place et sa légitimité et nous allons assister à leur confrontation. L'auteur va nous entraîner dans l'intériorité de ces personnages et tour à tour nous faire épouser les propos de l'un ou de l'autre. Coucher. Ne montez pas trop tard. Demain...
Notre mère n'a pas achevé sa phrase. Elle apparut égarée soudain et son regard s'est voilé. Un instant, j'ai pensé que je ne l'avais jamais vue pleurer. J'ai saisi sa main sèche et glacée et ai posé mes lèvres. Elle m'a regardée surprise, vaguement incommodée, réprimant une grimace de répulsion. Nous n'avions guère l'habitude de ce genre de gestes, elle et moi. Personne n'aurait su dire pourquoi. C'était ainsi. Nous n'étions pas ce type de famille, voilà tout. Enfin, je n'en avais même pas conscience. Je ne crois pas que ça m'ait vraiment manqué. J'ignorais qu'il pouvait en être autrement. Quand j'allais chez des amis, ça ne semblait pas si différent. Mais peut-être leurs parents retenaient-ils leurs élans en ma présence ? Par pudeur, par discrétion. C'est seulement quand j'ai rencontré Stéphane que j'ai réalisé que cette absence de démonstration d'affection n'était pas si courante et qu'il existait des foyers où l'on se touchait, se serrait dans les bras, s'échangeait des mots tendres. Elle a fini par retirer sa main de la mienne en me lançant un sourire crispé. Puis elle s'est dirigée vers la porte-fenêtre. Il était minuit passé. Stéphane et les enfants étaient montés se coucher depuis plus d'une heure. Elle avait tout de même tenu jusque-là. S'était efforcée de veiller aussi tard que possible, mais ça ne servait plus à rien maintenant. Il n'y avait plus aucune chance pour que Paul se pointe avant le lendemain matin. Et encore, s'il daignait venir. Il n'avait répondu ni à mes messages, ni à ceux d'Antoine. Ça faisait 3 mois que nous n'avions pas eu de contact avec lui. Mais c'est habituel. Notre frère était injoignable quand il sortait un nouveau film. Et aussi pendant qu'il écrivait. Sans parler du tournage, du montage et de la post-production. En définitive, les périodes où il réapparaissait dans nos vies étaient rares et c'était toujours de manière fuyante. On aurait dit de mauvaise grâce. Comme une punition qu'il s'infligeait pour des raisons obscures. La plupart du temps, nous n'avions de ces nouvelles qu'à travers les journaux, la radio, parfois même la télévision. Mais cela n'arrivait pas si souvent. En règle générale, c'était les comédiens qui venaient présenter ces films dans les émissions culturelles. Suppliait de nous montrer Clément. La vie que menait Paul avait beau revêtir pour elle une grande part de mystère, elle comprenait au moins ceci, le besoin qu'il avait de se concentrer sur l'écriture de ses films, l'énergie qu'il lui fallait ensuite déployer pour les faire produire et les financer, le gouffre dévorant que constituait le tournage et le montage, puis combien il était débordé par la promotion et l'anxiété quand le résultat sortait sur les écrans. Et enfin, comment tout cela, échec ou succès, peu importait, le laissait exsangue et la nécessité qu'il éprouvait alors de se retirer en lui-même pour reprendre des forces et permettre au projet suivant d'advenir. À moins qu'au contraire, il n'enchaîne avec une mise en scène pour le théâtre, discipline qu'il affectionnait de plus en plus, mais qui semblait l'engloutir tout autant, même si la période des représentations n'était pas censée requérir sa présence. Il n'empêche que durant ces semaines aussi, il ne donnait plus signe de vie. Oui, notre mère comprenait tout ça. Mieux qu'Antoine et moi. Après tout, nous menions également des vies professionnelles prenantes, épuisantes. À quoi s'ajoutait, me concernant le quotidien éreintant d'une famille, la gestion des enfants, d'un mari et d'une partie non négligeable des tâches domestiques. Et pour Antoine, une vie privée difficile à saisir, puisque justement, il la gardait farouchement privée, mais que je soupçonnais agitée. Et quand bien même, pour cette fois, il aurait pu faire une exception, me disais-je. Nous faire part de ses intentions ou au minimum accuser réception des informations que nous lui avions transmises, au premier rang desquelles figurait l'espoir de maman qu'il soit là, malgré tout. Bien sûr, il y avait peu de chances qu'il en tienne compte. Nous concernant, il ne tenait jamais compte de grand-chose. Maman a refermé la porte-fenêtre. Je lui ai fait signe de la laisser ouverte. Antoine et moi, nous ne nous coucherions pas de si tôt. Il faisait encore doux. Il y aura encore pas mal d'allers-retours entre la terrasse et la cuisine pour nous ravitailler en alcool, vider un cendrier, trouver de quoi grignoter, reste de poulet, un paquet de chips, des biscuits. Mais elle l'a tout de même fermé pour éviter les courants d'air. Elle leur livrait une guerre sans merci, depuis toujours et même en plein été. Nous nous engueulions souvent à ce sujet quand je vivais encore ici. J'aimais plus que tout sentir l'air circuler à travers les pièces. Et détestait la sensation de confinement d'une maison hermétique. Ça la rendait dingue. Elle refermait tout derrière moi, y compris s'il s'agissait de ma propre chambre alors que j'y étais. Elle entrait dans la pièce sans un mot et se dirigeait vers la fenêtre. Une fois le mal réparé, d'un geste sec qui trahissait sa colère, elle ressortait sans une explication, sans même un regard. J'ignore pourquoi elle haïssait à ce point les courants d'air, même les plus tièdes, même les plus doux. Je crois qu'elle n'aurait sans doute pas pu l'expliquer elle-même. C'était une phobie qui venait d'on ne savait où. Un truc inscrit en elle depuis l'enfance, légué par ses propres parents peut-être. Les courants d'air dans une maison, c'était le mal absolu. Et ça faisait partie des nombreux points sur lesquels mon père et elle étaient d'accord. Au même chapitre, il faudrait ajouter la question des volets. Mes parents les fermaient sitôt la nuit tombée, et parfois même en journée, l'été par forte chaleur. J'avais l'impression de vivre dans un caveau. J'avais l'impression qu'on m'enterrait vivante. Elle s'est servi un verre d'eau dans la cuisine avant d'éteindre la lumière, puis nous avons entendu l'escalier craquer sous ses pas. Elle ne pesait pourtant pas bien lourd. Depuis que j'étais arrivée, je ne l'avais rien vue avaler. Elle ne pouvait simplement pas, disait-elle. Mais ça finirait bien par revenir. Tout passe, tu sais, répétait-elle souvent. Et c'était là l'essentiel de sa philosophie. Endurer, faire le dos rond, attendre que le temps fasse son œuvre, avec patience et en silence, sans plainte surtout. Nous avons compté 20 craquements pour autant de marches. Ce foutu escalier avait toujours fait un boucan d'enfer dès le premier jour, paraît-il. Combien de fois nous étions-nous gaufrés, Antoine et moi, parce que le bois ciré glissait sur les chaussettes? Seul Paul ne se faisait jamais gauler. J'ignore comment il s'y prenait, mais jamais aucun bruit ne le trahissait. Et pourtant, il redescendait presque chaque nuit, souvent bien avant moi, pour monopoliser le téléviseur et le magnétoscope et s'enfiler ses vieux films aux couleurs fanées, dont il dit aujourd'hui qu'ils ont forgé sa destinée, quand il ne faisait pas le mur pour passer la nuit dehors.
« Tu crois qu'il va venir ?» annonçait Antoine en s'allumant une cigarette.
Dans la rue, les arbres bruissaient doucement. La nuit était encore tiède. Du jardin montaient des parfums de terre et de résine. Antoine avait enflammé la mèche d'une lampe à huile qui éclairait notre coin de terrasse. Il l'avait achetée pour nos parents au début de l'été. Il ne s'en était jamais servi. J'ai haussé les épaules. Avec Paul, comment savoir? Il n'en faisait toujours qu'à sa tête. Se souciait peu des convenances, comme si son statut d'artiste l'y autorisait. Il considérait n'avoir aucune obligation envers qui que ce soit, et surtout pas envers sa famille. Il avait laminé de film en film, de pièce en pièce, même s'il s'en défendait. « C'est une fiction !» répétait-il. « Rien à voir avec vous !» Mais qu'est-ce qu'il croyait? J'avais beau ne pas être aussi cinéphile que lui, ne pas être particulièrement porté sur la littérature et le théâtre, ou plutôt ne pas avoir assez de temps pour ça, je connaissais la rengaine. Cette excuse bidon de la fiction, cette stratégie d'évitement minable, ce vrai truc de faux cul. Et puis il y avait les interviews. Là, je n'ai jamais su quelles pouvaient être ses justifications. Personnellement, je ne lui en tenais pas rigueur. Notre mère non plus, ce n'était pas pire que les pièces ou les films eux-mêmes, mais Antoine, lui, ne le voyait pas ainsi. À ses yeux, que notre frère mente à longueur d'entretien, s'inventant une enfance qu'il n'avait pas vraiment vécue, une famille qui n'avait pas tout à fait été la sienne, ravissant les souvenirs, un passé, pour en tirer bénéfice, relevait de la malhonnêteté la plus crasse. Et cette fois, il n'avait pas l'excuse de la fiction, de la licence poétique ou de n'importe quelle connerie de ce genre. Non, là, c'était de l'arnaque pure et simple, de l'escroquerie caractérisée fut-elle intellectuelle.
Quel enfoiré, quel foutu mythomane, tout ça pour se faire valoir, tout ça pour se faire plaindre ou je ne sais quoi. Non mais quel imposteur. Et puis cette manière de geindre sur son enfance, cette manière de tout dénigrer, maman, papa, cette maison, cette ville.
En général, je préférais ne pas répondre. Antoine n'avait pas complètement tort, bien sûr. Mais il était né 6 ans après Paul, et 8 après moi. Nous n'avions pas connu exactement les mêmes parents. Et si Paul en rajoutait sans doute, je savais qu'à la source du fleuve de ses mensonges coulait un ruisseau où se cachait un soupçon de vérité. En tout cas la sienne, qui n'était pas tout à fait la mienne. Mais qui ne ressemblait en rien à celle d'Antoine. Quand bien même avions-nous grandi sous le même toit.
Son dernier film?
J'ai hésité à lui avouer la vérité. Oui, je l'avais vu. Et bien avant qu'il ne sorte, Paul m'avait invité à assister à une projection privée en compagnie de l'équipe. Sur le coup, ça m'avait surprise. Il ne faisait plus ce genre de choses depuis longtemps. Convier l'un d'entre nous à des projections, à des avant-premières, nous envoyer des invitations pour ses pièces. D'ailleurs, les rares fois où nous le croisions, sans papa, puisque depuis leur ultime affrontement, c'était devenu impossible, et jamais dans cette maison, parce qu'il était hors de question que notre père quitte son propre domicile pour nous laisser le champ libre, nous ne parlions jamais de ses réalisations. C'était un sujet tabou. Il ne voulait avoir avoir à se justifier sur rien. Et de toute manière, selon lui, nous ne pouvions pas comprendre. N'étions pas à la bonne distance, celle du spectateur. Nous surinvestissions ses créations et de façon biaisée. Nos liens, notre passé commun nous aveuglaient. Ces discussions ne menaient à rien, sinon à des dialogues de sourds. En définitive, s'il avait appris une chose de sa vie d'artiste, c'est que ça ne pouvait pas bien se passer avec les proches, en particulier la famille. Soit il inventait, tordait, réarrangeait, et on l'accusait de mensonges, exagération, manipulation, manque de respect, trouble à l'ordre public de la réputation et du qu'en dira-t-on. Pour qui nous fais-tu passer? Que vont penser les voisins? Soit il se cantonnait à la vérité, et ça revenait au même. Comment osait-il raconter tout ça, nous jeter en pâture et s'essuyer ainsi les pieds sur le respect de nos vies privées?
Un écrivain dans une famille, c'est la mort de cette famille, disait Philippe Roth. Ben, c'est pareil pour les cinéastes et les metteurs en scène, avait-il asséné un jour.
Et il fallait croire qu'à ses yeux, la sentence du grand auteur américain avait valeur à la fois d'autorisation et d'absolution.
J'avais laissé la fenêtre entrouverte. Heureusement que maman dormait, elle aurait râlé. Surtout qu'elle avait mis le chauffage. Ton frère est si frileux, s'était-elle justifiée quand je lui avais fait remarquer qu'il faisait encore doux pour la saison. Incroyable. Pas un instant, elle n'avait douté qu'il se pointerait. Et elle était toujours aux petits soins pour lui, après tout ce qu'il lui avait fait. Mais ça avait toujours été comme ça. Il avait toujours été celui qu'il fallait protéger, épargner, excuser. Paul et sa fragilité, Paul et ses failles, Paul et ses états d'âme. Qu'est-ce qu'elle avait pu me gonfler avec ça? Et moi, putain, éclair et elle, on était fait en quoi? En béton armé? Leur voix me parvenait. Je ne saisissais pas tout, mais comme d'habitude, tout tournait autour de Paul. En fait, je ne les écoutais pas vraiment. Je n'avais pas la tête à ça. Je ne savais même pas comment il trouvait la force de discuter de quoi que ce soit, de faire comme si de rien n'était. Merde, papa était mort, non? On l'enterrait demain, où j'avais rêvé. Et après, c'est moi qui passais pour un type sans cœur. Mais je suppose que c'est comme ça dans toutes les familles. Que les rôles sont distribués une fois pour toutes. L'aînée responsable et bienveillante. Le cadet instable avec son tempérament d'artiste. Et puis moi, le Benjamin dynamique, concret, efficace, performant, pragmatique. Il parlait en bas, sur la terrasse, et j'essayais malgré tout de me concentrer et d'aligner quelques phrases pour le lendemain, même si je ne voyais pas comment j'allais réussir à avoir le courage de me lever pour les lire à voix haute le moment venu. De toute façon, l'écriture, ça n'avait jamais été mon truc. La place était prise, il faut croire. Je n'arrêtais pas de reprendre, de raturer. C'était tellement frustrant, cette manière qu'avaient les mots de s'acharner à ne pas dire ce que je voulais leur faire dire. Papa, sa vie de labeur, et puis le repos bien mérité. La capacité de sacrifice de cette génération, quoi qu'on en dise, malgré les tonnes de mépris et de déconsidération sous lesquelles on l'ensevelissait de nos jours. Le côté stoïque, bosser comme une brute, sans jamais te plaindre pour que tes enfants ne manquent de rien. Leur offrir une maison, une chambre à chacun. Leur payer les études, même si c'est vrai que les bourses avaient bien aidé. essayer de leur transmettre quelques valeurs. Sérieux, retenu, autorité. Pour qu'on ne sorte pas trop des rails, qu'on travaille bien à l'école, qu'on ne le rate pas, ce putain d'ascenseur social. Par peur aussi, surtout, qu'on déconne, qu'on se perde, qu'on suive la mauvaise pente. Et puis, à partir de la pré-retraite, enfin, le droit de penser un peu à soi, son jardin, ses balades en forêt, la pétanque derrière la mairie, la télé, quelques polars et ses petits-enfants, parce qu'il fallait voir le grand-père que c'était. Comme il se mettait en quatre pour leur faire plaisir aux gamins de Claire, il l'adorait. Et je ne savais pas comment ils allaient réagir quand ils réaliseraient que c'était vraiment fini, qu'il était entre quatre planches maintenant. Et moi non plus, je ne savais pas comment j'allais réagir. Depuis plusieurs semaines, depuis que maman m'avait dit que cette fois les docteurs étaient formels, la fin approchait. Je crois que j'avais perdu le fil. Au boulot, personne ne m'avait trop rien dit, eu égard à mes états de service. Mais fallait pas rêver. Dans ce genre de boîte, on ne te laissait pas tranquille bien longtemps. Seuls les résultats comptaient. J'ai essayé une dernière fois d'écrire quelques mots, en vain. Et puis, j'ai entendu craquer l'escalier. En bas, il n'y avait plus aucun bruit. Je me suis penché à la fenêtre. La terrasse était déserte. La lampe à huile éteinte. Claire et Paul avaient dû finir par monter. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Pas de nouvelles de Sarah. Elle faisait la gueule. J'avais refusé qu'elle m'accompagne et elle l'avait mal pris. « Écoute, je lui avais dit, ça fait un an et demi qu'on est ensemble et t'as jamais rencontré ma famille. Tu crois vraiment que c'est le moment de faire les présentations ? Ma famille en deuil, mon père mort, voici Sarah qui croit que je ne voulais jamais présenter parce que je ne l'aime pas vraiment, que je ne me projette pas avec elle sur le long terme ou n'importe quel truc dans le style que lui ont sûrement soufflé ses copines. » Je suis sûr que si on l'avait interrogé sur la question, Paul aurait été foutu de sous-entendre que je cachais ma famille à Sarah, comme je l'avais caché à toutes celles qui l'avaient précédée depuis Lise, parce que j'en avais honte. Honte de mes parents, de la maison et de la ville dans lesquelles j'avais grandi. Alors que c'est lui qui avait un problème. J'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. J'ai hésité à lui envoyer un texto, et puis je me suis dit que ça ne servirait à rien. J'ai éteint mon téléphone et je suis sorti de la chambre avec mon papier et mon stylo dans ma poche. Je me suis dit qu'au rez-de-chaussée, sur la terrasse, les mots viendraient peut-être plus facilement et qu'au moins il y aurait quelque chose à boire. Je suis descendu à l'ancienne en me servant de la rampe. Une seule marche a craqué et la réception sur le carrelage de l'entrée n'a pas été trop brutale. Ça a juste fait un bruit un peu sourd qui a dû suffire à réveiller maman. Elle avait toujours eu le sommeil si léger. Elle ne s'en était jamais plainte, du reste, ni de ça, ni d'autre chose. Il y avait de la lumière dans le salon. Paul avait dû oublier d'éteindre avant de monter. C'était bien son genre, le genre à ne jamais se soucier du prix de l'électricité ou de quoi que ce soit. J'ai appuyé sur l'interrupteur avant de me diriger vers la cuisine et j'ai entendu grogner dans mon dos. J'ai rallumé. Paul se tenait près de la chaîne Ifi. D'où j'étais, je ne l'avais pas vu à cause du canapé. Il venait juste de se relever et brandissait un disque à mon intention.
Ça alors ? Qu'est-ce qu'il fout là, ce CD ?
Bah, c'était à papa, comme tous les autres.
Quoi ? Il écoutait ça ?
Un instant, j'ai hésité à lui répondre que oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il croyait ? Il adorait ce disque. Il pensait peut-être que papa était trop rustre pour écouter Dominique A. Ah, il était beau le défenseur des sans-voix, des obscurs, des sans-grades, quand il s'agissait de son propre père. Et puis, je me suis contenté de lui dire la vérité. Régulièrement, notre père me demandait de lui acheter tel bouquin ou tel disque, parce qu'il avait entendu Paul les citer en interview. Ça devait être une manière de ne pas perdre tout à fait le contact. De chercher malgré tout, même sur le tard, à comprendre son propre fils, dont tant d'aspects lui échappaient. Les goûts, la sexualité, les opinions, le mode de vie, le rapport au travail, à la famille, à l'argent, et j'en passe. Quant au cinéma, je lui avais refilé mes codes Netflix et Canal. Je lui avais même installé l'Apple TV pour qu'il puisse aussi louer des films en ligne et mater tout ça sur le téléviseur du salon. Là aussi, il s'efforçait de regarder les œuvres que son cinéaste de fils portait au nu, quitte à s'emmerder ferme, parfois, pas toujours. Mais les tiens, ça, il pouvait plus. C'était trop dur. Il a fini par arrêter. C'est maman qui a réussi à le convaincre, même si de son côté, elle continuait. Le dernier qu'il a vu, j'étais avec lui. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu pleurer. Et quand le film a été terminé, il est allé se coucher et il n'a plus jamais voulu en parler à qui que ce soit.
C'était lequel ?
Ok. On aurait dit que rien de ce que je venais de lui dire ne l'avait ébranlé, qu'il ne posait la question qu'à des fins statistiques. Celui qui suicide maman.
Arrête de dire des trucs comme ça. C'est un personnage qui n'a rien à voir avec elle. Ni avec notre père.
Notre père ?
Quoi ?
T'es même pas foutu de l'appeler papa.
Écoute, c'est pas la question.
C'est quoi la question alors ?
Toujours la même. Le problème que vous avez avec mes films et mes pièces, cette obsession de vouloir vous reconnaître dedans, alors que ce sont des personnages que je bâtis avec des tas d'éléments empruntés ici et là, je...
Oui, oui, c'est ça, je connais la chanson. Je ne l'ai pas laissé répondre. Je me suis tiré dans la cuisine pour me servir un verre de vin. Je n'avais pas l'intention de repartir dans ces débats. Je n'avais pas l'intention de remettre une pièce dans le jukebox. Aucune envie qu'il m'inflige une énième leçon de cinéma. Tout son baratin sur la fiction, les personnages. J'ai débouché un Côte-du-Rhône. Il était légèrement bouchonné, mais tant pis. Je me suis servi un grand verre et j'ai embarqué la bouteille. J'ai ouvert la porte-fenêtre et je me suis écroulé sur la chaise de papa sur la terrasse. Si Paul me rejoignait, il ne pourrait pas s'y asseoir et ce serait toujours ça de pris. Je suis levé, Claire et Antoine étaient déjà partis. J'aperçus ma mère dans le salon. Elle tenait à la main une tasse de thé, sûrement la quatrième ou la cinquième depuis son réveil. Elle fixait le téléviseur allumé sur une émission matinale. J'ai reconnu la voix du chroniqueur cinéma, un type qui officiait dans un magazine dont je me sentais plutôt proche, mais qui avait toujours cru bon de défoncer mes films. Quand il ne se mettait pas en tête de m'attaquer sur un plan plus personnel. Ça faisait partie des paradoxes du métier. On ne choisissait pas ses ennemis, ni ses soutiens. Je me suis préparé un café et je suis allé le boire sur la terrasse. J'ai fait un petit signe à ma mère à travers la vitre. Elle n'a pas semblé me voir. Ses yeux paraissaient rivés sur la télé, mais je crois qu'en réalité,
il se perdait dans le vide. À moins que ça n'ait été dans le passé, ce qui, en définitive, revenait au même. Elle n'était pas tout à fait là, mais ça risquait, malheureusement, d'empirer. J'ai allumé ma première clope de la journée. Je n'avais personne pour me dire d'arrêter. Pas d'enfant, ni de conjoint moralisateur pour me faire les gros yeux, à part ma mère. Personne ne s'inquiétait pour moi. Et c'était très bien ainsi. J'ai fumé en la regardant. Quand j'étais allé voir mon père à l'hôpital, la deuxième fois, juste avant que je reparte, il m'avait confié « Ta mère est malade. Elle le sait plus ou moins, mais je ne suis pas sûr qu'elle réalise à quel point. Elle doit faire des examens complémentaires. Ça sent pas bon. Si c'est ce qu'on craint, elle va se maintenir entre deux eaux pendant quelques mois. Peut-être quelques années si elle a de la chance. Et puis elle va décliner d'un coup, brutalement. C'est comme ça que ça se passe dans ce genre de cas. Je voudrais que tu t'en occupes, que tu l'accompagnes pour les examens, que tu discutes avec les médecins, que tu règles tout ce qu'il y aura à régler une fois que je serai plus là. Que tu prennes les dispositions qui s'imposent. Une aide à domicile, ou ce que tu jugeras bon. Mais pas l'EHPAD. Avec ta mère, on s'est toujours dit qu'on ne finirait jamais dans un de ces trucs. Avec tous ces vieux qui attendent la mort, en jouant au bingo sous les yeux d'aides-soignantes, qu'ils te parlent comme si tu avais 2 ans ou que tu étais demeuré. On s'est toujours juré qu'on trouverait le moyen de s'en aller avant de perdre la tête, ou d'être une charge pour vous ou pour la société. On ne veut peser sur personne, tu comprends. On s'est toujours débrouillé pour ne rien demander à qui que ce soit. C'est pas maintenant qu'on va commencer. C'est pour ça que le moment venu, si tu crois que c'est la meilleure solution, je voudrais que tu te renseignes pour, tu sais, enfin, la Suisse, quoi. Je ne peux pas demander ça aux autres. Ta sœur a déjà assez à faire avec son boulot et ses enfants. Elle ne va pas avoir, en plus, ses vieux parents sur le dos. Et puis Antoine, tu le connais, il est trop fragile. Trop à fleur de peau dès qu'il s'agit de nous. Je n'aime pas bien ça, d'ailleurs. Je n'aime pas qu'il s'en fasse autant comme ça depuis toujours. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. C'est aux parents de se soucier des enfants. Pas le contraire. Enfin, bref, c'est tout ce que je te demande. De t'occuper de ta mère tant que c'est possible et de te renseigner pour la Suisse quand ce sera nécessaire. Si tu ne vois pas d'autre solution et si c'est toujours ce qu'elle souhaite. Mais ça m'étonnerait qu'elle change d'avis. J'ai mis de l'argent de côté pour ça. Il y a une pochette dans le bureau de notre chambre avec les instructions pour les comptes. Je t'ai fait une procuration. J'ai tout réglé avec la banque. Je sais que tu sauras faire ça. Je suis sûr que tu connais les bonnes personnes, ou tu connais les gens qui les connaissent. Et puis, c'est toi le plus solide des trois. Ta mère n'a jamais compris ça. Elle est toujours entrée dans ton jeu. Le truc de l'enfant fragile, de l'artiste avec ses failles et ses doutes. Mais tu sais aussi bien que moi que c'est du flan. Du reste, depuis que je suis à la retraite, j'ai eu le temps de m'intéresser à tout ça. Enfin, je m'y suis intéressé parce que t'es là-dedans. Et je vois bien que dans ta partie, les gens sont au moins aussi durs que partout ailleurs. Peut-être pas à la base, je veux dire enfant ou adolescent, mais une fois devenu adulte, sans doute parce que chez vous aussi, il y a beaucoup de gens qui espèrent et peu d'élus. Vous êtes jugé tout le temps, par les critiques, par le public, sur le nombre d'entrées, les prix reçus, les notes des spectateurs. Tout le temps évalué, mis en concurrence avec les autres, les anciens, les nouveaux. Je vois bien que chez vous aussi, tout le monde se jalouse, se compare, s'épie. Que tout le monde pense que le succès de l'autre lui vole le sien. Que tout le monde attend que l'autre se casse la gueule, décline, libère la place. Ça, je l'ai bien compris. Mais ça n'excuse rien, hein. Ne va pas croire que je te plains, c'est partout pareil. Je me contente de constater et de t'expliquer pourquoi je te demande ça à toi et pas aux autres. Parce que tu es devenu ce que ton milieu a fait de toi, contrairement à ton frère. Quant à ta sœur, je la sens déjà au bord de l'implosion. Et je ne veux pas lui faire prendre. prendre le moindre risque. Elle a des enfants à charge. De toute façon, ta mère ne veut pas qu'il soit au courant. Je sais, c'est idiot. Ils vont bien finir par s'en rendre compte. Mais elle ne veut pas leur causer de soucis, ou le plus tard possible. C'est pour ça qu'elle veut que tu t'occupes de tout. Quand il m'avait dit tout ça, je m'étais demandé un instant si ma mère était réellement au courant. S'il ne manigançait pas tout ça derrière son dos. On avait beau les percevoir comme indissociables, ils étaient tout à fait capables de ce genre de cachotterie l'un envers l'autre. Les premiers temps, quand mon père et moi, on ne se voyait plus, qu'il ne voulait plus entendre parler de moi et vice-versa, elle avait maintenu le contact en secret. Elle m'appelait au téléphone quand il sortait, m'envoyait des mails à l'aide d'une adresse qui ne servait qu'à ça et dont mon père ignorait l'existence. Régulièrement, elle prenait le train et prétextait un rendez-vous médical à Cochin ou à la Pitié-Salpêtrière pour me rejoindre à Paris. Nous déjeunions ensemble dans une brasserie. Elle prenait invariablement un croque-monsieur avec une salade, des frites et un verre de vin rouge. Elle appelait ça son petit luxe. Un croque dans un bistrot en regardant les gens passer dans les rues de Paris. C'était ça son idée de la grande vie. En sortant de l'hôpital ce jour-là, j'avais repensé à une interview de Maurice Pialat que j'avais visionnée quelques semaines plus tôt. Il venait de perdre son père, ou sa mère, je ne sais plus, où il était sur le point de... Et il disait que dans son enfance, à tort ou à raison, il s'était senti mal aimé, ou qu'il avait été mal aimé, ou que ses parents ne s'étaient pas vraiment occupés ou soucié de lui. Je ne me souvenais plus des termes exacts. Je leur avais trop substitué mes propres mots, comme toujours. En tout état de cause, le « à tort ou à raison » était de moi. Bref, il parlait de ses parents qui l'avaient négligé ou mal ou pas aimé, et il confessait s'être vengé d'eux à travers ses films, plus ou moins inconsciemment. Et maintenant, ils étaient morts, où ils allaient bientôt l'être, et il n'en était pas fier. Il disait ça, la voix étranglée et le regard humide. « Je n'en suis pas fier. » C'est à cause de cette interview que je m'étais décidé à aller voir mon père à l'hôpital, quelques jours plus tard.
Il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard, lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard.
Ces quelques extraits vous donnent un aperçu du drame familial qui se joue là. À vous d'en reprendre la lecture pour en découvrir toutes les subtilités. Cette émission a été préparée par Anne et Guylaine, accompagnée à la lecture par Paul et Yvan. Au cours des pauses musicales, vous avez entendu des extraits de Beyrouth d'Ibrahim Malouf et la chanson Nantes de Barbara. Nous remercions Claude Michel pour le montage et vous disons à très bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site